Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, spécial bonheur. Fini les scénarios catastrophes, la révolution architecturale et les relations humaines, la créativité, l'hiver, la solidarité et les médias. Dans cet épisode spécial, Aube s'est intéressé au petit bonheur du quotidien, à la joie d'un rire d'enfant qui éclate spontanément ou du rayon soleil qui éclaire ta cuisine, et ce, sans remords, en toute simplicité. Au sommaire, les petits plaisirs du quotidien, le parking day ou l'art de se réapproprier l'espace urbain. Quelques trucs pour se simplifier la vie, un hommage à Ciné-Cadeau et les bienfaits du rire sur la santé. Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé, bonheur. C'est dimanche matin, là. En robe de chambre. Ah non. Mieux que ça. Rewind. Encore dans ton lit, à regarder le plafond, pis que ça te tente pas pantoute. Tiens, je vais prendre un bon livre, pis je vais grignoter des biscuits en dessous des couvertes. Hein? Un monologue? Ouvrir l'émission? Pas aujourd'hui, ah non, regarde. Demandez ça à Guillaume, c'est sa job. Moi, je m'installe devant les bonhommes, pis cœurez-moi pas. Comment ça, Guillaume est pas là? C'est vrai que ça fait 3 émissions qu'on l'a pas entendu. Je commence à penser à appeler pompier, moi, là. Bon. Vous l'aurez voulu. Je vais suivre le manuel d'instruction. En cas de « ça te tente pas », tu mets du plume. Puis moi, je m'en retourne me coller sur mon amoureuse jusqu'à l'épisode 34. Le bonheur. Mieux que ça, plein de petits bonheurs. Enfin.
La poésie vivante. Les vieilles rues qui chantent, les cabanes à moineaux. Moi, j'aime siffler tes ritournelles en lavant ma vaisselle, les yeux dans le lavabo. Nuages remplis de paysages. Bam-bam-bam, de folie, de voyage. Sous des cieux toujours bleus, même quand il pleut. Moi j'aime les étoiles filantes, quand c'est toi qui les chantes, tout mélodiquement. Moi j'aime ton petit swing à toi tout seul, ta façon de parler vite, vite, vite avec ta fine gueule. Tout nostalgiquement, Ménil Montant. Mais oui, madame. Salut Trunet, vieille branche.
Cette capsule des petits plaisirs du quotidien vous est offerte par les barbes à papa tout rose. La barbe à papa qui voit la vie en rose.
Donner à manger à des mésanges qui viennent picorer dans ta main. Faire et réussir une nouvelle recette. Écouter la neige tomber. Se réveiller le premier matin dans une maison de vacances et réaliser qu'on est ailleurs, loin de chez soi. Ressentir le sable entre ses doigts de pied. S'allonger dehors le soir en été pour regarder les étoiles. Se réveiller une heure avant le réveil et s'enrouler de nouveau sous sa couette. Découvrir une chocolaterie et y acheter 3 bouchées que l'on déguste avec un bon café. Se coucher dans des draps fraîchement lavés et repassés. Écouter au chaud dans son lit le silence étouffé d'un matin de première neige. Prendre un petit déjeuner au lit, puis se rendormir après. Se lever tôt, aller courir, se baigner, rentrer, se rendormir et se relever pour bruncher. S'installer derrière une vitre de café exposée au soleil, un jour d'hiver. Se laisser inviter à un spectacle dont on ne sait rien. Se laisser surprendre par une destination inconnue. Goûter une épice que l'on ne connaissait pas. Déguster un plat dont on ne reconnaît pas les ingrédients. Faire une sieste dans l'herbe pendant un pique-nique. Éplucher une mangue et lécher ses doigts pleins de jus avant de la dévorer. Essayer de rattraper le rêve génial que l'on était en train de faire. Se faire une petite séance de danse chez soi sur une chanson qu'on adore. Rendre quelqu'un heureux. Faire une surprise. Sentir l'odeur du café chaud le matin en arrivant dans la cuisine. Faire du pain et inviter des amis. Dormir la fenêtre ouverte quand arrive le printemps. Marcher pieds nus dans l'herbe, à la campagne, dans un parc, un square ou son jardin. Prendre une douche après avoir transpiré pendant une heure à jardiner en plein soleil.
Laisse tomber les armes sans que ce soit voulu. Alors il reste un peu, un ou deux jours de plus, comme des chiens errants qui ont trouvé un toit. Et pour la nuit, il dort auprès des deux amants. Mais les moments parfaits repartent au petit jour, car rien de moins certain que les tristes humains. Qu'ils reviennent toujours, mais les moments parfaits ne reviennent jamais. Chien parfait de l'amour ne reviennent jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laissent tomber les larmes sans que ce soit voulu, alors il reste un peu, un ou deux jours de plus. Que les tristes humains. parfait de l'amour ne reviennent jamais.
Scene 1, Apple, take 1.
Donc, le parking day, c'est une fois par année où les gens vont s'approprier l'espace de stationnement en payant le parcomètre à toutes les heures pour en faire ce qu'ils veulent. Légalement, la loi dit tu payes tant que tu payes ton parcours, tu peux faire ce que tu veux. Donc, le parking day, tu payes ton parcours, tu utilises ton espace C422. Ce que les gens font, bon, ils vont s'amener tous ces tabacs techniques, ils vont faire un mini-pot pendant la journée, ils vont faire, souvent, c'est des maisons d'architectes qui vont se construire des petits kiosques pour la journée pour parler justement de leurs produits. Mais en même temps, c'est pour dénoncer l'espace, l'utilisation de l'espace public qu'on fait de nos rues, de nos routes, de nos espaces. C'est comme, ah, tout d'un coup, on prend moins d'espace. C'est incroyable. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, si vous donnez de l'espace, donnez des routes, vous allez avoir du trafic. Donnez des pistes cyclables, vous allez avoir des cyclistes. En fait, c'est parce qu'il faut le monter le matin, il faut que ce soit autonome, puis il faut l'enlever le soir, garder ça propre. En autant que ça peut être ton parcours, t'es légal. Puis Montréal est réputé pour être le plus gros au monde, où est-ce qu'on a le plus de participants. Et cette année, en 2015, la police de Montréal est un petit peu rentrée dans le tas en disant « Ouais, attention, le parking, il y a une loi en quelque part qui dit que l'utilisation d'un terrain de stationnement est pour entreposer, je le mets entre guillemets, un véhicule. » Fait qu'il y a eu, sur les 200 participants, je te dirais qu'il y a eu 4 kiosques qui ont dû arrêter leur activité parce que ils n'entreposaient pas leur véhicule. Mais c'est un petit peu ridicule parce que c'est un événement super peace, grano, tu sais. N'importe quoi, la définition de véhicule, c'est-tu avec moteur, sans moteur, c'est ton moteur électrique, est-ce que ça marche autant? Est-ce que comme là, il y a des voitures électriques ici, c'est-tu, tu sais, si t'as une remorque, c'est-tu, tu sais, t'es stationné là, tu prends la station de stationnement en arrière, ta remorque, est-ce que faut que tu la payes? Non, tu sais. Fait qu'il y a une petite ambiguïté là-dessus. Saint-Hubert, il y a des placotoirs, puis les bancs face à face. En fait, l'idée, c'est d'agrandir les trottoirs pour rapetisser les rues et en même temps de planter des arbres pour faire des espaces publics. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Tout l'espace qui est pris pour les voitures, là, ça explique le trafic qu'on vit. Là, t'sais. C'était une chronique de l'Artisnik, artisan récupérateur, signé Nicolas Desormeaux.
Nous pouvons commencer.
Savez-vous qu'il est rarement admis dans les mœurs les plus courantes que le fait de séquestrer un individu soit normal ?
Je sais bien évidemment, monsieur.
Et il ne vous viendrait donc pas à l'idée de me détacher ? Libérer ou alors simplement laisser partir, même en contrepartie d'une certaine somme ?
Non, car nous ne sommes pas des gens courants, vous et moi, monsieur Tubercil.
Et quelle est la chose qui nous différencie tant du commun des mortels ?
Allons, vous le dites vous-même à mot couvert à chaque fois que vous avez le droit à la parole publique. Caché dans des allégories, cette idée est présente et jamais ne sort.
Si vous vouliez bien m'éclairer...
Nous pensons, monsieur Tubercil, contrairement à eux. Nous sommes des êtres conscients bien loin de nous contenter de vivre. Nous infusons notre réflexion dans nos actes.
Et c'est cela qui m'a valu l'honneur de me faire assommer, enlever, attacher, séquestrer. J'aurais mieux fait de vivre simplement. Je savais qu'exprimer mon désir humaniste serait fastidieux, surtout sur les ondes. Mais pas qu'un funeste dégénéré puisse m'enlever pour me poser la question.
Allons, allons, je ne vous ai pas enlevé. Je souhaite simplement vous inculquer une routine de pensée qui, à mon humble avis, est nécessaire. Une fois que vous l'aurez apprise, je vous libérerai.
Bien, s'il le faut, éduquez-moi, qu'on en finisse.
Nous allons donc commencer avec, si je crois bien lire, le sujet du jour, le bonheur.
Qu'attendez-vous que j'en fasse ?
J'attends de vous que vous ne construisiez plus d'élucubrations maladives, qui sont certes de beaux poèmes en prose pleins d'humanité, mais sans aucun doute vide de sens pour la plupart des gens. J'attends que nous instaurions la réelle règle de votre supposé humanisme, loin de votre piédestal élitiste. Utilisons la directive.
Soit, commençons. Le bonheur, à mon humble avis, et si votre excellence Jolière ne me tue pas directement, est d'être libre comme l'air.
Ah, bien, un bon début. Mais comment un être pourrait-il simplement être heureux ? Libre, tandis que de nombreux pourceaux sont bien plus épanouis dans le champ de leur routine animale.
Voyons, Un contre-argument si facile, si simple, bien évidemment, car ils ignorent la puissance du bonheur d'être libre.
Et quant à l'homme qui s'est enchaîné dans les dettes et l'usure, pris au coup par son incontinence financière, doit-on dire qu'il est libre ? Doit-on dire qu'il est heureux de l'être ?
Son bonheur a été de pouvoir choisir son destin et le bâtir ou le détruire à la force de ses mains. Il est mal en point, il est peiné et endetté, mais ce n'est pas la faute à son bonheur initial, fruit de sa liberté. Lui-même n'a pas su la cultiver.
Si je dois bien comprendre, il doit s'en vouloir de ne pas avoir été obligé de cultiver sa liberté pour être heureux. Le vrai bonheur serait donc de quêter comme un mendiant les ressources pour bien vivre libre et heureux.
Ne soyons pas stupides. Le plus grand bonheur est celui d'être libre, mais ce bonheur se mérite. Seul l'homme sachant évaluer la prime valeur de ce bonheur saura qu'il lui faut tout mettre en œuvre pour l'ériger au sein de sa vie.
Qu'en est-il de l'ignorant, de l'analphabète, de l'idiot ? Ce bonheur ne leur sera jamais accessible, tant l'intellect y joue un rôle supérieur. Je vous trouve dur comme patron des hommes et comme juge des mœurs, monsieur Tubercil. Le bonheur n'a pas de niveau, le bonheur d'être libre n'est pas celui qui dépasse tous les autres. Il nous faut un bonheur uniforme, sans quoi nous sombrons dans l'élitisme et purement dans le jugement des autres. C'est ainsi que des hommes se sont sentis supérieurs à d'autres.
Voyons, il ne peut pas y avoir de bonheur uniforme, nous sommes des êtres, des réceptacles de sensations. Nous ressentons en fonction de nous-mêmes des bonheurs différents, qu'ils soient bruts ou complexes, mais au-delà des sens, seul le bonheur d'être libre est justement égal chez tous les hommes, bien qu'enfoui.
J'en doute, le bonheur ne peut pas être enfoui. Mais je vois que mon horloge sonne, il est l'heure de partir. Nous devons donc conclure. Trouvez un compromis, sinon je vous garderai bien longtemps.
Est-ce une leçon ?
Je ne suis pas assez grand pour prétendre vous donner une leçon, mais assez fort pour vous contraindre à ouvrir votre esprit. Je vous écoute.
En soi, Maître Figaro...
Appelez-moi Garibaldi.
Maître Garibaldi, toute discussion, tout argument contraire ne sont en réalité que les multiples facettes d'une vérité unique. Votre bonheur uniforme existe s'il en est en tout homme, mais que ce soit dû au péché originel ou à la bêtise crasse des hommes, il nous a été caché par l'inégal jugement des hommes entre eux. Aussi est-il plus aisé, à un être conscient de sa liberté, de construire son bonheur. Car dans un monde où le bonheur est incarcéré et codifié sous les strates horribles des illusions, le nouveau bonheur réside dans la capacité de se libérer de ses illusions pour à nouveau le retrouver. Le bonheur est égal à chacun de nous, mais la capacité à franchir ce que l'homme a mis entre lui et le bonheur est inégale.
Parfait, Maître Tubercil. Notre entrevue prend fin. Je suis heureux de voir votre finesse d'esprit prendre la couleur de notre discussion. Peut-être que bientôt vous ne me verrez plus comme un geôlier, mais comme un ami. Au revoir.
Mais, attendez ! Comme un ami ? Quel sinistre individu. Oh, et ses chaînes !
Les 10 marches vers une vie plus simple, plus organisée et plus harmonieuse. Moins, c'est plus.
Pourquoi accumuler des quantités d'objets et de vêtements qui ne servent pratiquement pas? Départissez-vous et évaluez vos avoirs. Avez-vous déjà fait l'exercice de mettre un chiffre sur chacun de vos avoirs, petits et grands? Constatez combien de dollars dorment chez vous dans le fond des garde-robes, de votre sous-sol ou de votre garage. Vous vous sentirez d'abord riche, puis vous vous rendrez compte de tout l'argent dépensé pour rien. Ces objets encombrent votre lieu de vie et votre esprit. L'encombrement ne sert qu'à créer un faux sentiment de sécurité. Faites le ménage, vendez, donnez, recyclez et réévaluez vos avoirs. Seulement ce qui vous est utile et qui est assez beau pour être étalé sur un meuble ou un mur devrait partager votre lieu de vie. Le vêtement qui dort dans la penderie depuis des décennies ne fait que nourrir un rêve déchu de minceur et d'occasions ratées. Vos choux gras serviront à quelqu'un d'autre qui les appréciera à leur juste valeur. Lorsque vous êtes tenté d'acheter ou d'accepter un objet, évaluez-le bien et dormez au moins une nuit sur votre décision.
Consolidez vos dettes.
Toutes ces cartes de crédit, ces factures à payer, cet intérêt qui s'accumule, allez-y, prenez une grande respiration et évaluez votre état financier. Si vous êtes dans le trou, mois après mois, alors prenez la décision de faire le ménage de vos finances. Les cartes offertes par les grands magasins sont outrancièrement fardées et l'intérêt mensuel sur les soldes impayés est abusif. Relisez attentivement vos contrats et vos états mensuels.
Planifiez les repas.
Oui, ils reviennent à tous les jours, 3 fois par jour, et notre alimentation est une priorité. Aussi bien en faire une vraie priorité. Lorsque vous cuisinez, cuisinez en double ou en triple et congelez en portions individuelles ou familiales. Donc, planifiez vos repas en tenant compte de ce que vous avez déjà dans le réfrigérateur. D'ailleurs, c'est une très bonne habitude que de toujours partir de ce que vous avez sous la main.
Ne laissez pas les autres envahir votre vie.
Que ce soit les sollicitations personnelles, le téléphone ou le courrier, gardez le contrôle de la situation. Ne laissez pas la sonnerie du téléphone contrôler votre quotidien. Laissez le répondeur faire son travail et retournez tous vos appels à l'heure qui vous convient. Vous et votre famille sont la priorité. Gardez un bac de recyclage près de la porte d'entrée et jetez immédiatement les dépliants publicitaires et autres courriers indésirables. Ne laissez entrer chez vous que le courrier qui vous sera utile, et même celui-ci devrait être déposé dans un endroit convenu au lieu d'envahir la table de la cuisine ou de travail. Évitez les visites impromptues en signifiant aux gens, même ceux qui vous sont chers, d'appeler avant de venir vous visiter. Même le bon voisinage se fait dans le respect des priorités des autres.
Ne faites pas un plat avec des peccadilles.
Ne laissez pas les irritants vous affecter au point de gâcher votre journée. Le sucrier renversé, la petite crise de larmes, l'automobiliste impoli sont des irritants quotidiens qui ne valent pas la peine de s'y attarder. Respirez, méditez, allez prendre l'air au lieu d'aggraver une situation qui n'en vaut pas la peine. Combien de conflits, de crises et de stress sont évités lorsqu'on garde son calme? Gardez le sourire!
Ne prenez pas tout sur vos épaules.
Planifiez les tâches ménagères de façon à assigner à chacun des membres de la famille une responsabilité personnelle, quitte à faire une rotation des tâches. Soyez strict et ne laissez pas vos enfants s'en sortir facilement. Quiconque partage le même toit devrait participer à l'élaboration et la répartition des tâches.
Ne surchargez pas les tiroirs de votre mémoire.
Utilisez un cahier et goûtez à la magie des listes. Listes de tâches, de cadeaux, listes de réparations à faire, d'achats, d'épiceries, de problèmes à corriger chez les enfants. Énumérez et déchargez-vous sur papier de tout ce qui se doit d'être rappelé.
Faites un pied de nez à la télé.
Une population qui se laisse bercer par les illusions que la télé lui reflète chaque jour risque fort peu de se révolter. C'est à vrai dire une forme de contrôle très efficace. La popularité des sitcoms à l'humour douteux nous reflète le besoin d'engourdissement à tout prix de la masse populaire. Le contenu doit être léger, le message facilement digestible et la publicité qui l'entoure doit stimuler la consommation. Contrôlez votre horaire télé afin qu'elle enrichisse votre quotidien et celui de vos enfants. Ne laissez pas l'enchaînement des émissions vous enliser dans votre fauteuil. De même, protégez vos enfants du pouvoir hypnotique du cyclope.
Ne surchargez pas votre horaire ni celui de votre famille.
Si vous avez à cœur le bon développement de vos enfants, laissez-leur le temps de souffler. Une activité extrascolaire où l'enfant peut s'impliquer et s'enrichir est suffisante. Considérez une rotation saisonnière des activités. Les cours de piano pendant l'été, le soccer le printemps, le hockey pendant l'hiver. Quoi qu'il en soit de vos intérêts culturels et sportifs, ne surchargez jamais vos horaires au point de ne plus vraiment apprécier les activités dans lesquelles vous vous investissez. Gardez au moins un soir de semaine de cocooning familial.
Chaque jour est important.
Assez important pour le planifier la veille ou le matin même. Prenez 5 minutes le matin pour vous asseoir avec votre tasse de café, ouvrir votre journal de bord à une page en haut de laquelle vous indiquerez le jour de la semaine, la date, le temps qu'il fait dehors. Recentrez-vous, accueillez cette nouvelle journée et faites une liste des activités principales à faire. Si vous devez aller reconduire votre enfant à une activité, planifiez autre chose à faire sur cette route. Je sais que je me répète, mais les listes simplifient tellement les choses. Voir notre horaire de la journée nous aide à la visualiser tout en dégageant notre mental. Si vous avez mal dormi parce qu'un problème vous hante, notez-le. Une longue vie vécue en santé, la prospérité plus que l'argent, reflète l'accomplissement de l'individu dans la matière, et le bonheur familial reflète nos relations heureuses et sereines avec notre entourage.
Un texte de Ginette Séguin tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration d'Elisabeth Daigle.
Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm, me apple, potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm, me apple, potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Touch me this, touch me that. Touch me everything I've got. And you touch
Ça faisait quelque temps qu'autour de moi, j'entendais parler du film « En quête de sens ». Ma sœur avait participé au sociofinancement, mes parents étaient allés le voir en France, des amis aussi. Tout le monde semblait unanime. Le film était à voir, exceptionnel, motivant. J'entendais tout ça. Mais n'avions-nous pas déjà tout vu en termes de films militants, écolo-alternatifs ? Le Monde, selon Monsanto, m'avait fait adopter des fermiers pour remplir mon frigo. Cowspiracy, lancé sur le chemin du végétalisme. Et les innombrables documentaires sur le monde du textile me rappellent à ma culpabilité à chaque fois que j'entre chez H&M. Qu'allait m'apporter un énième film sur le changement ? Puis une discussion avec une amie m'a fait réfléchir. Selon elle, on était encore devant un film fait par des jeunes hommes, blancs, riches, éduqués, qui avaient tout eu avant de se poser les questions du vrai bonheur. Une vision occidentale finalement assez commune et qui, sans qu'on s'en rende toujours compte, est prédominante. Leurs conditions leur avaient permis d'être pris au sérieux, de faire bouger les bonnes personnes au bon moment pour avoir de la visibilité, distribuer le film, etc. Alors même si ces jeunes hommes étaient sûrement bien intentionnés, elle ne se bougerait pas les fesses pour aller les voir. Ça peut sembler extrême comme idée, mais elle n'a pas tort. C'est un fait que rien qu'en tant que femme, le parcours pour sortir le film m'aurait été plus difficile. Bref, j'avais maintenant vraiment envie d'aller voir ce documentaire, mais pour des raisons tout autres. Je voulais me faire ma propre opinion. Mais avouons-le, je voulais surtout pouvoir ensuite démonter toute la bien-pensance de ces deux garçons. Je vais être honnête tout de suite. J'ai souri, j'ai pleuré, j'ai rêvé. Et je suis même ressortie de là en suggérant à des amis d'y aller à leur tour. En gros, c'était raté pour démonter un par un les arguments de ces deux gars lors de mon prochain café entre amis. Ce qui m'a plu, c'est qu'à travers leur périple, ils ont transcendé les notions de genre, d'origine et de statut. En allant à la recherche d'une solution plus intime, plus profonde aux maux de la société. Ils ont vu au-delà des initiatives pratiques. Ils ont connecté avec l'ancrage spirituel des protagonistes, la connexion profonde de l'être à la nature et même parfois aux étoiles. Cette ouverture leur permet d'aller à la rencontre de gens aussi différents en apparence que des physiciens, des chamans, des sociologues ou encore une simple famille de fermiers citadins au cœur de San Francisco. Tous semblent convaincus que le monde traverse une crise de sens, qu'il mène vers un nouveau fonctionnement, une nouvelle étape. Qu'on le veuille ou non, l'état actuel de la société nous pousse à une reprogrammation mentale. La solution n'est pas tant de trouver des alternatives, mais de remettre en question notre rapport au monde. Quelles sont nos croyances intimes ? Et surtout, quelles sont celles qu'on a laissées s'installer en nous et qui nous ont doucement confisqué notre notion du progrès ? Je ne peux pas dire que j'ai appris des choses foncièrement nouvelles, mais j'ai fait des liens. J'ai réconcilié les différentes parties de moi qui peuvent sembler opposées parfois, et qui sont pourtant nécessaires à mon équilibre. Au cours du documentaire, j'ai imaginé les différentes vies que je pourrais avoir, les différents lieux où je pourrais vivre, les différentes actions que je pourrais prendre. Puis au final, assise dans mon fauteuil du cinéma Beaubien, j'ai pris 2 minutes pour regarder ma vie. J'ai eu une envie soudaine de retourner à mes 3 enfants et à leur père qui m'attendaient à la maison. J'ai eu envie de leur dire que le monde allait dans une nouvelle direction et que tous leurs rêves étaient possibles. Que notre bonheur ne se trouvait pas en Inde, à la campagne ou au fin fond de l'Amérique centrale, mais ici, maintenant, et qu'il était profond. Dans un monde où on a tendance à confronter les différences, à se battre contre des systèmes et des idées contraires, se faire transporter doucement et intelligemment vers une notion d'unité est rafraîchissant. Alors pour 12$, j'ai eu une petite piqûre de rappel quant à mes croyances profondes et un regain d'énergie pour donner corps à mes envies. Et l'une d'elles prend d'ailleurs la forme de cette chronique.
C'était une capsule de Justine Restello.
Quand on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine.
The world as we see it is an expression of the collective beliefs. When we look at the world today in crisis and failing, then it says if you want to
evolve and survive this crisis, we have to change the belief systems.
The reduction of our identities to being consumers is part of the problem.
La science du XXe siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble.
So it's a kind of like a cycle. That's how nature works. So we have to learn from nature and create a cyclical economy.
Nosotros somos la punta del cambio que viene, ¿no?
Phil, arrête de jouer avec les postes! Hey, c'est le bain de Cléopâtre!
T'as pas le droit de regarder ça!
Toi non plus!
Ben, je suis plus vieux que toi, et bon!
Maman! Phil, arrête pas de jouer avec les postes!
Hey, check ça, yum! Je suis capable de faire une nouvelle tourne en changeant les postes!
Come on and meet the arrête, là! C'est des icônes!
Mais non, regarde, ça fait une nouvelle chanson!
Phil, c'est l'île au plaisir! Arrête, c'est pas cool! Donne-moi la roulette!
Non, non!
Donne-moi la roulette!
Hey, tu me fais mal! Je veux écouter Astérix, bon.
Ben, moi aussi, là! On peut aussi s'amuser à parler par-dessus!
Ok, toi tu fais Cléopâtre.
C'est le bain de Cléopâtre!
Ben là, t'es encore sur le poste de l'équipe.
On pourrait réinventer l'histoire en mélangeant les deux émissions.
Bonne idée! Astérix a des idées pour les 12 travaux de l'équipe.
Grand l'appétit va tout bas! Grand l'appétit va tout bas!
On pourrait aussi faire jouer la cassette à l'envers.
Oh ouais! Comme la fois où j'ai fait jouer ton album de Slayer à l'envers sur ton petit pick-up Fisher Price.
Bon, ça y est, là j'ai perdu le poste.
Ensuite, tourne la roulette vers la droite.
Ça marche plus!
L'autre droite!
Amiche!
Ah, c'est bien plate, les maudites toutes neuf, hein!
Bon, on va-tu dans le sous-sol jouer à faire de la radio?
La dernière fois, t'as scrappé mon pick-up Fisher Price.
C'était notre hommage à Cinécado.
Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faites-y dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë de la...
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu les petits plaisirs du quotidien, le parking day, quelques trucs pour se simplifier la vie et un hommage à Cinécado, sans oublier la musique de Jean Leloup avec Les moments parfaits, Les Michel avec Il y a de la joie dans le ghetto et de Charles Trenet en finale avec Il y a de la joie. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. Cette seconde de capsule des petits plaisirs du quotidien vous est offerte par les marshmallows moutendres. Attention, risque d'effusion de tendresse à prévoir.
Discuter longtemps au téléphone de tout et de rien avec un vieil ami. Vibrer à un concert ou devant une pièce de théâtre. Rire avec des amis. Écrire dans un petit carnet tous les endroits que tu aimerais voir dans ta vie. Partager un bon repas. Être dans un avion et savoir qu'on part à l'aventure quelque part. Entendre le chant des oiseaux en se réveillant le matin. Sentir l'odeur de la mer ou de la forêt. Les câlins. Prendre le temps. Écouter le vent qui passe dans les arbres durant les matinées agréablement fraîches du printemps. Dormir la fenêtre ouverte et écouter le bruit des vagues. Voyager, observer, admirer, goûter et rencontrer. Voir la force de la nature. Parler aux écureuils en marchant le matin pour aller travailler. Voir des gestes de compassion et de bonté. Rencontrer des gens qui ont une aura bienveillante. Sourire et accueillir un sourire. Allonger sur la plage, faire couler le sable entre ses doigts.
J'ai embrassé l'aube d'été. Rien n'obligeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles, dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je les dénonçais au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Un texte du nom d'Illumination d'Arthur Rimbaud. Narration et adaptation de Marie-Claude Tardy. L'industrie du porno dans un monde hypersexualisé prend pas mal de place. Qu'est-ce qui existe comme alternative pour émoustiller vos 10 sens? Je me suis entretenu avec Marie Salvado et Sophie Dupuis, deux des trois instigatrices du site de Nouvelle Érotique, jesuisvenu.com.
On était trois personnes qui travaillent toutes en cinéma. Et faire un film, c'est long. Écrire, commencer à penser à l'idée, réécrire.
Et être assujetti aux demandes de subventions et attendre ces réponses-là pour écrire et travailler et avancer. On trouvait ça laborieux dans le principe d'écriture et de création.
On avait besoin de quelque chose de plus spontané, de quelque chose de plus qu'on pouvait faire, avoir un produit concret là, qu'on pouvait voir rapidement au bout. T'sais. Puis on s'est dit, on devrait écrire plus, des trucs courts. Et là, comme c'est dans une soirée arrosée, tout ça, on s'est dit, pas beaucoup de sexe dans nos films, ce serait cool de parler de sexe, puis là, tiens.
Hein? On s'est surtout mis au défi d'écrire quelque chose d'érotique dans un cadre très privé pour retrouver le fun de l'écriture.
Ouais,
c'était ça le défi. Et après, on s'est envoyé des nouvelles érotiques. Et après,
le site.
L'idée du site, ah ouais, Sophie est arrivée avec l'idée du site. Ouais.
Et là, l'idée des illustrations aussi. Mais c'est parce que moi, je suis pas bonne en titres. Tous mes titres sont mauvais tout le temps.
Puis, celui-là, il réussit.
Puis là...
Ça, c'est fort.
Ouais.
Mais c'est bien parce que ça, c'est très implicite. Et en même temps, c'est pas gênant à dire. C'est pas vulgaire. Donc, on peut tout dire et le dire très librement. Et en même temps, c'est plein d'un sous-entendu qui est très clair. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient en cinéma qui voulaient pas, quand ils allaient être googlés pour leur travail, notamment je pense à une directrice artistique et tout, qu'on tombe directement là-dessus. Du coup, on a pris ça comme un jeu, puis on a trouvé ça amusant de se trouver des pseudos et voilà.
Je pense que ça faisait un peu partie de la culture, de la littérature érotique, de ne pas signer son nom, d'être anonyme. Puis bon, il y en a dans nos auteurs qui utilisent beaucoup des trucs aussi qu'ils connaissent, un peu personnels. Je pense qu'eux autres, ils avaient envie que ça soit pas...
Plus secret, moins mis en vitrine. Il y a un petit mystère amusant. C'est plus ludique qu'autre chose, moi, je crois.
Fait qu'on a décidé que tout le monde allait jouer ce jeu-là, puis c'est le fun, parce que tout le monde est comme t'es qui, puis là, on s'en force à lire toutes pour qu'ils essaient de deviner qui on est, ou tu sais.
Ouais, puis c'est quand même un investissement, il y a une régularité de travail dans la création d'images, dans les textes à livrer.
Il y a une générosité là, qui vient avec ça, fait que c'est... on les aime beaucoup, puis personne n'est payé, puis c'est juste du fun, fait qu'on...
Puis ça existe grâce à eux, faut le rappeler, donc merci à tous.
On a deux auteurs qui avaient déjà été publiés. Sinon, les autres, c'était tous des gens qui n'avaient jamais nécessairement fait ça. Il y a eu des publications qui se sont faites par après. Des gens qui ont été attirés par certains noms pour leur proposer d'écrire dans des publications. On en parle là, de créer quelque chose, peut-être un objet, un livre. Mais il n'y a rien de...
On nous le demande souvent.
Oui. C'est drôle parce que sur les plateaux, les gens connaissent beaucoup Je suis venue. parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en cinéma, qui travaillent sur Je suis venue, et d'autres qui connaissent ça par hasard. Des fois, on nous en parle. « Ah, j'ai lu un truc là sur Internet, un site là. » Puis là, je fais « Ouais, ben c'est moi puis mon ami qui a parti ça. » Les gens sont comme « Non! » Mais ouais, c'est... on s'ennuie pas sur les plateaux, mais quand en plus on peut jaser de souvenirs, c'est encore mieux.
Nous, on a fait ça pour le fun. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous dire que ça avait changé quelque chose dans leur sexualité, qu'ils avaient envie de consommer moins de porn. Cet aspect-là, qui est au-delà de l'aspect ludique, pour les créateurs qui ont écrit énormément pour eux et qui se sont obligés à écrire régulièrement, ça c'est fantastique. Mais pour les gens de l'extérieur, on a eu beaucoup de retours sur comment ils percevaient ça et comment ça les avait... Moi, c'est des gens que je connais qui m'ont avoué ne jamais lire, attendre certaines nouvelles de Je suis venue avec plein de plaisir. Évidemment, un plaisir émoustillant, sexuel et tout, mais aussi un plaisir de lire. Et moi, je trouvais ça quand même extraordinaire.
Parce que Je suis venue, c'est à part l'illustration, il n'y a pas d'image. Les gens peuvent mettre les corps, les visages de qui ils veulent. Ils peuvent, c'est l'imagination, en fait, qui est excitante plus que qu'on te donne tout cuit dans le bec. Puis, moi, j'aimais ça, savoir que les gens étaient excités par leur propre imagination.
J'ai déjà dit d'un sexe festif, d'un sexe positif. Je trouve dans le monde dans lequel on est, sain, c'est quelque chose qui est devenu important et c'est une ligne éditoriale qui s'est construite finalement d'elle-même. Elle n'était pas là au départ.
Et même si on dit que c'est festif, ça ne veut pas dire que toutes les histoires sont positives.
Exact.
Il y a souvent des histoires où se mêlent des sentiments un peu moins fun, un peu moins de la tristesse, de la colère, peu importe. Dans l'imagination qu'on crée, il n'y a pas juste, la porn, c'est au moment où ça commence à se lécher, puis jusqu'à la fin où le gars est venu. Ben là, nous, on a souvent un contexte autour de tout ça auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier.
Vous savez quoi, les petits bonheurs, ça tient à pas grand-chose. Et surtout durant la Seconde Guerre mondiale, en France, lorsque la nourriture était rationnée. Ce qui va suivre, c'est une anecdote de mon grand-père qui a vraiment vécu ce rationnement.
C'était en 38, je devais avoir 10 ans. Parce que moi, j'avais 52 ans d'écart avec mon père. Mais on vivait en osmiose tous les deux. On se regardait, on se comprenait. Sans un mot, sans une autre parole, mon père Jésus me faisait... Je prenais un tramway pour la traire, le 12. Je m'assieds avec mon père. Il rentrait une dame. Il me regardait, il me faisait... Je me dis, madame, s'il vous plaît, prenez ma place. Merci, petit, c'est gentil, tu vois. J'ai jamais fait un voyage assis, je restais debout, tu vois. Mais j'étais jeune, moi. S'il y avait personne, je restais avec mon père, mais... Je veux dire, tu vois. J'étais tout le temps... Et un jour, même... Pendant la guerre, ma mère, elle monte avec un gigot d'agneau. Paul regarde le beau gigot que j'ai acheté pour pas cher. Et ma mère me tournait le dos. Et mon père était en face de moi, que j'étais derrière ma mère, tu vois. Ma mère fait, regarde, mon père, il fait, oh, il est beau. Et mon mari, il me fait, pas plus. Puis il me fait, je vais dans la chambre, il vient, il me dit, si ça, c'est de l'agneau. Moi, je suis l'évêque de Marseille. Ça, ça n'a jamais été un agneau, ça. Ça, c'est un clébard. Il était beau, ce chien, parce qu'il est beau. Hein. Et alors, il me dit, tu vas voir, quand ma mère va la faire cuire, il va gonfler. Et l'agneau, il descend. La couvercle était à ça, la casserole. Eh bien, écoutez, j'avais faim, j'ai mangé le chien.
couché en boule dans mon petit coin. J'en ai plein mon casque, mais c'est pas encore l'overdose. De toute façon, c'est plate à mort. Maudit que ça a l'air le fun dehors. Montrez-moi de quoi qui va me surprendre. J'irai là où mon cœur m'appelle. Je sens la laine de la guerre, j'ai le goût du sang. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, j'avais le goût de m'enfuir. Je suis lâche des lâches, pas le tough des toughs. Le vent souffle dans mes cheveux de la musique de tempête. Mes deux yeux grands ouverts, le sommeil est pas là. 50 millions d'images qui se bousculent dans ma tête. Tout seul, c'est la misère. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dansé comme un fou, que j'ai pas crié comme un loup. Ces derniers jours, j'ai dû vieillir de 4000 ans en visitant des vieux souvenirs dont je suis pas fier. Pour faire la paix avec ces regrets, ça prend du temps. Je me retrouve 100 fois plus fatigué. Trop fatigué, mais moins amer. L'histoire du monde et mon histoire sont mélangées. Je viens juste de revivre 100 000 autres vies en une seconde. Toutes mes conneries puis l'ambition de l'humanité, ça revient au même. Y a pas de coupable, y a pas de honte. Ouais, ben, l'amour, la mort puis tout, c'est des questions trop grandes pour moi. À part de ça, le monde entier veut juste savoir combien ça coûte. Tous les gestes que je fais, ils veulent plus rien dire. C'est comme... si j'étais en train de mourir. L'amour, c'est l'amour. Y a rien à comprendre. Moi, je suis pas fait pour ça, ça me donne mal au ventre. Mon corps, c'est un pays en guerre sur le point de finir. Le général de l'armée de terre s'entend au pire. J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible pour me lever de bout. Coudon, ça va-tu mal dans le monde ou bien y a juste moi qui capote? Je te dis qu'à soir, dans mon petit cœur, la vie est pas mal moins hot. Fait frette. Je suis comme un animal, plus capable de définir ni le bien ni le mal. Je finis, je le sais trop. La ville est trop immense, ma tête est trop sale. Il est pas question que je passe ma vie emprisonnée dans ma petite tête. C'est pas ma place, c'est évident, ça va finir par me tuer. Je partage mon angoisse, ma douleur, ma folie avec la planète Terre ou avec, encore mieux, je l'espère, avec tous les humains, la tête entre les deux mains. J'ai beau faire une tête d'enterrement, y a personne qui me prend au sérieux. Je suis très jaloux, très secrètement, la profondeur des malheureux. Veux-tu vraiment savoir quand tu me demandes « ça va » C'est pas la vraie réponse, mais je te connais pas. Ce soir, j'ai pas envie de parler. Encore trop de choses à cacher. S'il te plaît, ne me demande rien, je vais me mentir et c'est pas bien. J'ai pas le goût de vous parler. Je m'en vais demain matin à la maison des fous, si c'est pas des hypocrites. Toujours vrai quand tu parles, c'est là que je me sens bien. Je vais partir dans un moment, ronger mon frein en solitaire. Pour arrêter de faire semblant. Je peux pas faire semblant, ça me crisse le cafard. C'est vide en dedans, c'est sale en dehors. Je suis couché sur mon grand lit. Du coin de mon œil, par la fenêtre, je vois l'hôpital. Je suis pas capable de croire qu'il faut que je m'arrête ici. Mais je suis tout seul, puis de toute façon, ça me fait trop mal. J'arrive devant le docteur, il me dit « Comment ça va la vie? » J'ai plus envie de vivre, c'est ça que j'ai dit. Il y a plus rien qui me fait rien, si tu veux mon avis. Il y a sûrement quelque chose qui est pas normal. Il est trop imbécile pour définir toute la frayeur qu'il y a dans mes yeux. Dis-moi si je suis tout seul. Je vais aller sur une île, je vais brûler le bateau, pour recommencer le monde, je vais faire de quoi de beau. Mais ça sert à rien, ça fait même pas plus de chaleur. Hier, j'ai rencontré un pauvre. Il vit dans la rue, puis rien pantoute. Il m'a dit une phrase que j'ai trouvé drôle. La vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. Fiston, toi qui as l'air si mignon, ferais débarquer dans la réalité, ouvre bien tes oreilles, je le dirai pas deux fois. Mais c'est sans explication, je sais très bien comment faire. J'ai envie de rien sauf un peu de désir. Je voudrais bien partir. Je voudrais être heureux. On va hisser le drapeau blanc, point c'est tout. Je sens des ailes pousser sur mes épaules dans mon dos. Métamorphose, je t'attendais, mais moi c'est plus moi, c'est un oiseau. Je vais enfin pouvoir m'enfuir exactement comme dans mon plan. Il me reste juste 5 secondes à vivre. J'ai déjà perdu trop de sang. Mon cœur préfère la vie d'oiseau. Aussi longtemps que j'aurai des ailes, j'irai là où mon cœur m'appelle. Je vais recommencer mon autre vie de la même façon. Je vais avoir d'instinct, je vais rester fidèle à mon style. L'entente parfaite entre mon cœur et ma raison. Aidez-moi. Aidez-moi.
peux t'aider, Sylvie, j'entends vraiment la douleur, puis je sens que tu replies sur toi-même. En même temps, tu veux aller chercher de l'aide, tu veux que les gens puissent t'entendre, puis entendre ta peine. Moi, je suis là pour ça. Moi, c'est sûr que je suis là pour t'écouter, puis pour trouver avec toi une solution, quelques solutions pour que tu puisses te relever. Tu me dis que tu te trouves lâche, mais moi, au contraire, je vois que tu as vécu, tu as passé à travers plein d'affaires, puis malgré tout, t'as toujours été capable de les surmonter. Fait que moi, je te trouve courageux. T'es honnête avec toi-même. T'es honnête à propos de tes sentiments. Puis moi, je trouve pas ça lâche. Au contraire. Tu me dis que tu trouves ça dommage qu'il y a des gens qui s'en foutent. Mais il doit bien avoir quelques personnes autour de toi qui s'en foutent pas, qui ont des valeurs semblables aux tiennes. C'est qui ces personnes-là? T'as pas le courage de leur en parler? Si eux, ils se sentaient comme toi, tu te sens maintenant, est-ce que tu voudrais qu'ils t'en parlent à toi? Puis toi, tu serais là pour les écouter? Mais je pense que eux aussi, ils aimeraient ça que tu leur parles. T'sais, ils aimeraient ça savoir comment leur ami se sent, puis que t'as une grande détresse à l'intérieur de toi. Écoute, Dédé, si jamais t'as besoin de parler à quelqu'un sans jugement, tu peux me rappeler. Tu peux me rappeler au 1-866-APPEL, puis c'est sûr que je vais être là pour toi. C'est sûr que je suis là pour t'écouter puis pour t'épauler.
À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile.
À travers les brumes,
de voir naître l'étoile comme il est doux.
Une adaptation des textes de Dédé Fortin par Mathieu Gignan-Pelletier. Merci à Nairi qui donne son temps pour la ligne d'écoute le 1-866-APPEL. Une ressource d'aide et de réconfort pour les personnes qui pensent au suicide, leurs proches et les personnes endeuillées par le suicide d'un proche.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur message à Kate, plie boutique, et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit, donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir.
C'est ce qui conclut cet épisode de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, d'Aurélie Superchico, Jean-Baptiste Gardarin, Nicolas et l'artiste Nick, Elisabeth Daigle, Justine Rastello, Marie-Claude Tardy, Guillaume Lambe, Maude Campeau et Martin Junior Pelletier. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramée.